casse sur Mars.
Tu te casses sur Mars. Donne-moi ça.
Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars.
Merde.
Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars.
Bonsoir et bienvenue sur Mars. Bienvenue dans le hall du Pâté Saran. Vous écoutez Graffiti Cinéma. Et on parle de Mars au cinéma parce que ces émissions sont enregistrées au mois de février mais diffusées au mois de mars. Et on est très content en tout cas de le faire en compagnie des représentants de l'Astrocentre Orléans, Gérard Chouteau et Philippe Grucker. Bonsoir et merci pour cette deuxième émission. Alors, en notre compagnie pour parler de Mars, deuxième émission, le cinéma du n'importe quoi. En la compagnie également de notre équipe, hein, Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Et bonsoir Thomas.
Les chroniqueurs du n'importe quoi.
Les chroniqueurs du n'importe quoi avec le technicien du n'importe qui. Non, plaisante évidemment. Bonsoir et merci Stéphane.
Bonsoir.
Et merci Stéphane.
Et merci Stéphane.
La planète rouge est depuis très longtemps un fantasme absolu du cinéma. Loin de la Terre et des Séléniens, l'imagination est restée suffisamment fertile pour encore imaginer une planète vivante. Des fictions plus dingues les unes que les autres sont au rendez-vous cette semaine. Nous, on est encore sur Terre, mais on vous propose en tout cas pas mal d'extraits, notamment celui-ci pour commencer notre exploration. Les oiseaux de feu attendaient, rutilant sur le doux sable frais comme un brasier de charbon. La nacelle blanche attelée aux oiseaux par mille rubans verts flottait sous la caresse du vent nocturne. C'est hyper classe de parler d'une invasion martienne dans chez Ray Bradbury et dans les chroniques martiennes. Et c'est hyper classe aussi d'entendre une des scènes clés de Mars Attack, qui est évidemment le premier fantasme de cinéma, la planète rouge qui envahit la bleue. Et ça, c'est évidemment le lancement du cinéma qui fait n'importe quoi, mais évidemment... Pourquoi pas avec des grands films comme l'était celui-ci, hein, évidemment, Thomas. Là, on est dans le fantasme des années 50, transféré dans ce cinéma des années 90-2000, avec un plaisir absolument jouissif.
Ah bah, on sent que Tim Burton s'amuse beaucoup, hein, qu'il a vraiment choisi, il a vraiment bien choisi son sujet. C'est une imagerie des années 50, des martiens qu'on imagine en soucoupe volante. Avec des rayons laser verts, rouges. Voilà, l'idée que les martiens aient d'énormes cerveaux visibles, je trouve ça très très drôle. Qu'ils soient verts, évidemment. Alors, c'est un absolu, hein. Ils ne peuvent pas être d'une autre couleur. Et c'est plus l'idée que le film nous. C'est une vaste blague, en fait. C'est une vaste blague constante. Et que tous les représentants terriens sont tous des imbéciles finis. Voilà, le président des États-Unis, c'est Jack Nicholson, mais il le joue comme une sorte de pré-Trump.
Oui, tout à fait.
Alors que c'était pas du tout la vision. On n'allait pas se dire que Trump allait être président, hein, bien sûr. Mais c'est ça. C'est qu'à la revoyure maintenant, on se dit qu'il le joue comme ça. Un gars qui est président, mais qui aurait pu être autre chose, quoi.
Alors, Juliette, on va évidemment te laisser intervenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est déjà dans ce fantasme des années 50. Et évidemment, on va en parler de manière scientifique avec nos invités. Sur cet aller-retour entre science et cinéma, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu le terreau, en tout cas dans les années 50, pour encore à cette époque-là imaginer que Mars pouvait être vivante. Et ça, évidemment, avec les dernières actualités, et notamment ce qu'on a entendu la semaine dernière, on est en mesure déjà en grande partie d'y répondre. Juliette.
Oui, ce que je voulais dire aussi, Mars Attack, en plus, il est sorti à peu près en même temps que les Independence Day et plein de films comme ça. Et du coup, il y avait cet aspect, c'était parodique presque. Et il y en a d'ailleurs qui ça a déçu. Donc, tu avais cet aspect, effectivement, hommage aux années 50 et tout ça et tout ce qu'on s'imagine. Mais il y avait cet aspect aussi, prendre à contre-pied ce qui se faisait en même temps que cette époque-là sur le sujet, quoi.
Alors moi, je me tourne vers vous, hein, Gérard et Philippe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, sur Mars, a priori, on n'a pas trouvé des gars avec des cerveaux apparents. Mais On va déjà directement faire la présentation de Mars et ses grandes caractéristiques. C'est vrai qu'on le voit parce que là, on enregistre donc dans le hall du Pâté Saran avec des grandes présentations de Mars. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, Mars, on l'a vu comme habité, c'est qu'elle est très proche de la Terre. Hein. C'est quasiment une planète. Alors, jumelle est un grand mot, un peu valise, mais c'est en tout cas celle qu'on est le moins éloignée, en tout cas, dans le système solaire.
Ouais, c'est... Alors on dit toujours que Mars est la plus proche, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait Vénus est plus près. Mais
Ah oui, en termes de distance, pardon.
En termes de distance, oui. C'est ça. Mais bon, c'est la plus proche parce qu'effectivement, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est une planète qui a, au début de son existence, qui a certainement présenté des caractéristiques qui ressemblent à celles qu'on connaît sur Terre. Donc il y a eu une atmosphère, un champ magnétique qui la protégeait, et de l'eau liquide. Donc ce sont les ingrédients que l'on nous dit être fondamentaux pour que la vie puisse démarrer. Et donc puis, c'est ce en quoi Mars, c'est notre sœur.
Il neige hein, sur Mars.
Ben oui, il y a des saisons. Voilà. Le jour le martien, il est quasiment le même que sur la Terre, c'est un jour, hein, 24 heures. Elle est inclinée à 25 degrés, la Terre est inclinée à 23. Donc Mars a des saisons, comme nous. Ouais. Bon, elle met 2 ans à faire le tour du Soleil, quand nous on met 1. Parce qu'elle est plus loin.
Voilà,
mais c'est vrai. Et elle est un tiers, c'est un tiers à peu près de la. Enfin, à moitié de diamètre de la Terre, mais c'est un tiers de la gravité.
Alors, vous avez à découvert la science, vous grandissez dedans et vous êtes encore dedans, et c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous avoir autour de la table. Vous avez également, comme nous tous, hein, grandi avec cet imaginaire autour de Mars. Qu'est-ce qu'elle recule vous avez sur ces représentations d'envahisseurs, puisqu'on va en parler évidemment dans cette première partie, martiens, et est-ce quelle construction scientifique on peut aussi avoir sur l'idée qu'à un moment donné, comme on a vu des similitudes, en les regardant, les observant de la planète Mars, à un moment donné, on a vu des canaux, donc forcément, c'est qu'il y avait de la vie. Quel regard vous avez sur cette construction, je dirais, idéologique, hein, de la vie et des martiens, tel qu'on le voit dans le cinéma ?
Gérard. Je crois qu'il faut se remettre dans le contexte. Oui. À la période Camille Flammarion, un petit peu avant, on n'avait pas les télescopes qu'on a aujourd'hui. Donc le regard n'était pas du tout le même. L'esprit était aussi en France et en Europe sur les constructions. Il y avait beaucoup de canaux. Et donc, finalement, on a peut-être recherché hein, sur Mars à retrouver le miroir, dans le miroir ce qu'on avait sur la France hein, et sur l'Europe. Et je pense que c'est ça le grand boom de ce développement et puis du fantasme de cette vie martienne. On a parlé des hommes verts et qui a été très forte.
Ah oui, tout à fait. Puis c'est vrai que la plupart du temps dans les fictions, on va voir que les martiens, ils sont plutôt balèzes. Et là, on a justement un extrait pour vous montrer que souvent le terrien, quand il représente le martien, il a vraiment envie de te faire casser la tête. Je vous propose un deuxième extrait.
Ma vie au service de Dieu, ma tâche est accomplie. Et je séjournerai dans la maison du Seigneur pour tout.
Alors en général, dans le cinéma de fiction, quand les martiens débarquent, c'est pas sous forme de bactéries, c'est sous la forme de petits êtres relativement agressifs. Hein, et déjà dès 1953, bon évidemment on est en pleine guerre froide, donc forcément on évoque ça par truchement, évidemment. Et là on est dans ce film donc, de Byron Haskins, qui représente donc cette communauté en Californie qui se fait souvent attaquer par les martiens. Justement on en parlait la semaine dernière, il y a une communauté beaucoup de personnes qui veulent vivre sur Mars, qui sont en train de tester la vie martienne, c'est également Californie. Donc peut-être qu'il y a des liens, notamment évidemment par les aspects des déserts californiens de par Mars. Mais c'est vrai que là, dans les années 50, c'est justement l'hommage que fait Mars Attack avec énormément cette côté pastiche qui en fait un film culte. Mais cette représentation des années 50 est assez anxiogène et c'est Mars souvent qui était responsable de beaucoup de maux de la Terre, hein, Thomas.
Non mais c'est des choses formidables quoi, de se dire que les extraterrestres qui viendraient seraient suffisamment intelligents pour maîtriser des vaisseaux assez technologiquement avancés, beaucoup plus que les nôtres, et leur seul intérêt ce serait de venir et de tout détruire. Est-ce que il y a pas un
ce que nous, on aurait fait. Voilà. Si on avait été à leur place. C'est peut-être ça, en fait. Hein. C'est globalement, comme on disait tout à l'heure, comme vient de dire Gérard tout à l'heure, on reporte les fantasmes que l'on a nous-mêmes. Sur la... Donc, vous l'avez dit, c'est la guerre froide. D'ailleurs, dans la guerre des mondes, à un moment, ils essaient de les détruire avec une arme nucléaire. Donc, oui. C'est la bombe. Les années 50, c'est la bombe atomique. Hein. C'est le grand truc. On parle du nucléaire partout, à cette époque-là. Et puis, effectivement, c'est plutôt guerrier. Hein. Alors Mars, déjà, c'est le dieu de la guerre. Hein. Elle est rouge, c'est le dieu de la guerre. Donc voilà, elle a tout pour incarner cette...
On en est un peu parlé un peu de la semaine dernière, de la planète rouge et de cette oxydation. Et c'est vrai que dans le dernier Star Wars, par exemple, une des dernières planètes dans les derniers Jedi sur lequel...
Crète,
voilà, qui est des nouvelles planètes dans l'univers Star Wars, représente donc du coup une surface blanchâtre. Et quand il y a les vaisseaux qui passent, dessous, on avait cet aspect rouge qui avait marqué cinématographiquement dans la bande-annonce. C'était d'ailleurs un des plus beaux paysages de ces derniers Star Wars, il faut le dire. Évidemment, on pensait tout de suite à Mars, déjà, même dans les univers Star Wars qui sont pourtant très lointains. Justement, cette oxydation de Mars qui est justement caractéristique, et c'est pour ça qu'on lui a attribué le nom de la guerre depuis très longtemps et depuis les premiers temps d'exploration, on peut évidemment rappeler son processus pour qu'on ait l'air beaucoup plus intéressant en soirée après avoir écouté Graffiti Cinéma.
Pourquoi c'est comme ça, voilà.
L'atmosphère de Mars, c'est 90% de gaz carbonique. Donc, ça oxyde le fer qui est au sol. Et donc, ça donne... Quand vous avez de la rouille, c'est rouge. Ben, en fait, Mars est une énorme planète rouillée. En fait, on peut dire ça comme ça.
Quoi. Mars est rouillé. Ouais. On s'est fait un petit peu casser notre rêve, là, non?
Ah oui, alors, oui. Et c'est...
Notamment à cause de tous les vaisseaux spatiaux qui ont rouillé sur place.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est de notre faute, en fait. Est-ce qu'on a une idée de...
Le rouge, c'est l'oxydation. Quoi.
Est-ce qu'on a une idée de savoir, justement... tout à l'heure, vous avez dit que l'atmosphère, c'est... peu à peu étiolé. Est-ce qu'on connaît la raison ou ça n'est qu'une hypothèse?
Non, c'est pas une hypothèse.
On sait la raison qui a.
Alors certainement le champ magnétique qui a disparu. En fait, le champ magnétique sur une planète, il est créé par le noyau qui se trouve au centre de la planète, qui est en général chaud. Et là, ce qu'on constate, c'est que le noyau de la planète Mars s'est refroidi rapidement, ce qui fait que le champ magnétique a disparu. Plus de champ magnétique, plus de protection, et donc vent solaire qui arrive et qui chasse l'atmosphère. Et l'atmosphère est partie au fur et à mesure. Plus d'atmosphère, température qui baisse, l'eau s'évapore elle gèle.
Est-ce qu'on a une petite chance de trouver des martiens, mais sous terre?
Alors, on sait que l'eau, elle existe encore, mais sous forme de glace. Hein. Donc, notamment sur les pôles. On regarde les pôles sud et nord de Mars, on voit de la calotte polaire. Quoi. Donc on sait qu'il y a de la glace en dessous. D'ailleurs, ça fait partie des démarches pour envisager que l'homme puisse y vivre, c'est d'utiliser les matériaux solaires, et notamment l'eau. Parce que si on a de l'eau, avec l'eau, bien sûr, on peut permettre aux hommes de vivre. On pourrait également casser la molécule d'eau et récupérer l'hydrogène qui pourrait permettre de faire du carburant pour le retour. Et d'ailleurs, on parlait de Persévérance tout à l'heure. Persévérance a fait une petite expérience avec un instrument qui s'appelle MOXIE, qui en fait, c'est pas avec l'eau, mais avec le gaz carbonique de l'atmosphère, il a cassé le CO2 et il a gardé l'O2, il a fait de l'oxygène. Donc ça permettrait de faire respirer les astronautes sur Mars. Donc on voit qu'avec de la technologie, sur place, on pourrait utiliser des matériaux et avoir de l'eau, avoir de l'oxygène et pouvoir faire du carburant pour repartir.
Et là, avec le prochain extrait, on va même trouver beaucoup d'autres choses sur Mars, beaucoup plus que ça, parce que là, on va aller dans Life, origine inconnue. C'est parti.
Il approche dans le plan. Je la vois. Approche. Instagram !
L'objectif premier de la mission a été rempli. Nous avons devant nous la première preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Regardez à quelle vitesse il se développe.
C'est vraiment magnifique.
Chacune de ces cellules est une cellule musculaire et une cellule nerveuse.
Il n'est que muscle, que cerveau.
On se croirait dans Réanimateur, là. T'es sûr que c'est pas douloureux?
C'est une très très faible tension. On va le stimuler, c'est tout. Toi.
Quel est le problème?
Il vient de casser le stylet.
J'aimerais bien sortir la main.
Merde. Allez, allez. Allez, lâche.
C'est comme une vigoureuse poignée de main. Sa
fréquence. Life, origine inconnue, ou vie au Québec, parce qu'ils n'ont peur de rien là-bas, est un film de Daniel Espinosa. Il est sorti en 2017. Alors évidemment, on parlait tout à l'heure, hein, juste avant l'extrait, de ce qu'on pouvait attirer de Mars, créer de l'eau d'eux avec les robots dont on parlait tout à l'heure, avec nos scientifiques autour de la table. On rappelle, hein, donc Gérard et Philippe de l'Astrocentre Orléans. Ici, Life, origine inconnue, va beaucoup plus loin que ça. Vous avez une sonde qui est récupérée, qui contient un échantillon de vie venant de Mars. Cette sonde arrive et est récupérée auprès d'une station spatiale qui est en orbite autour de la Terre. Et cette sonde contient un organisme unicellulaire qui, assez rapidement, on l'entend dans la bande-annonce, va partir en cacahuète. D'un point de vue scientifique, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'on décide de réveiller une petite forme de vie unicellulaire en lui mettant un coup de jus par la tronche. Et a priori, c'est quelque chose d'assez universel dans toutes les formes de vie. Quand vous les électrifiez, elles le prennent relativement mal. Et c'est à partir de là où... clairement, vous avez cet organisme qui va commencer par grandir, manger des gens, manger des vaisseaux spatiaux et potentiellement menacer toute la mission qui existe sur Mars. Alors, Juliette n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais j'ai toujours trouvé que dans Life, origine inconnue, on va en parler évidemment avec nos invités, il y avait à peu près tout ce qui faisait le côté scientifique qu'on voulait, cette caution-là qui existe, hein, notamment avec cet organisme que tu disais, mais avec des personnages absolument crétins, notamment un chef de mission qui décide de ne pas respecter un protocole en ouvrant la porte. Vous aviez quelqu'un qui arrive à se noyer dans une combinaison spatiale en plein espace, ce qui était une des morts les plus dingues de l'histoire du cinéma, se noyer dans l'espace. Enfin voilà, pour moi, ce film-là, je l'ai vu avec plaisir et je le revois parce que c'est du concentré de pop culture et là, je force les traits parce qu'il m'a fait mourir de rire à chaque fois que je le vois. Mais il recèle en gros dans le fantasme tout ce qu'on ne verrait pas avec des scientifiques et ce qu'on ne verrait pas avec de la science, pour moi.
Mais non, enfin, tu, comme tu dis, tu grossis vraiment le trait parce qu'il y a quand même des trucs. Enfin, ils ont choisi pour une fois un organisme unicellulaire qui s'apparente à une cellule souche. Ça, c'est quelque chose finalement d'intelligent par rapport à tous ceux qui nous sortent des humanoïdes.
Oui.
Voilà.
Mais après, on lui met pas un coup de jus par la tronche.
Oui, mais ils lui mettent pas. Tu vois, tu t'as réduit là. Ils lui mettent pas qu'un coup de jus. Ils adaptent son oxygène. Ils le réchauffent. Oui. Il y a tout un processus quand même technique. C'est donc, je comprends que quand c'est illogique, tu supprimes complètement. Mais tu raccourcis trop.
Je trouve qu'en termes de protocole sanitaire, à l'époque,
non, mais après, quand on respecte pas le protocole sanitaire, t'as toujours mis ton masque pendant le confinement.
Tout à fait. Et sur Terre, on est plein on aime le principe de précaution. Fais attention à tout. Là, on donne vie à cet organisme, on reproduit les conditions de vie sur Mars pour lui mettre un coup de taser par la
gueule. T'arrêtes le film, tu le regardes même pas, puisqu'on est déjà dans un vaisseau spatial. Ben voilà, ils reviennent déjà de Mars, donc tu le regardes pas au départ.
C'est
déjà, ça pose problème.
C'est l'échantillon qui revient de Mars et qui arrive autour de la station.
Oui, mais c'est eux qui sont allés le chercher. Oui.
Il me semble pas, non ?
Si, si. Je l'ai revu pour l'émission.
Moi aussi.
Et bim !
Alors, au-delà de ce débat scientifique.
Le film n'est pas exceptionnel, c'est sûr. Après, je pense pas que tout soit acheté. Ça reste un petit thriller. Voilà, après, on le regarde, on l'oublie. Mais t'es un petit peu dur sur l'aspect technique et tout. Après, je comprends ton cerveau très cartésien quand c'est pas logique.
Parce que c'est ça que j'aime bien, mais justement, on peut vous en parler.
Après, de Jurassic Park, t'as détesté parce qu'ils ont donné vie à des dinosaures.
Non, c'est que dans Jurassic Park, il y a une partie où je me dis, bon, les dinosaures, même avec les meilleures inventions du monde, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Mais là, par contre, c'est les personnages de scientifiques qui me parlaient également. C'est de me dire qu'on va parler, évidemment, parce que là, ça va nous amener sur le sujet de la contamination microbienne de Mars avec notamment tous les engins terrestres qu'on y envoie. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là où on chicane pour rigoler parce que ça nous fait marrer, évidemment. C'est une vraie dispute de pop culture à laquelle vous venez d'assister.
Oui, c'est comme les Gremlins, on dit qu'on peut pas leur donner à manger après minuit, mais on est toujours après minuit.
Sauf que ceux qui leur donnent à manger, c'est pas des scientifiques. Et là, dans la station, moi, quand je vois un chef de mission qui dit attendez, on respecte des protocoles sanitaires pour les mouchoirs en papier et le recyclage, dès que quelqu'un est blessé, bam.
Oui, mais t'as bien aimé Alien, le 8e passager.
Oui, mais dans Alien, ils
Eh ben non, ils respectent pas. Elle dit qu'il faut pas
mais
le faire rentrer.
C'est pas des scientifiques dans Alien.
Mais ils respectent quand même des protocoles. Pourquoi il y aurait que les scientifiques qui doivent respecter
les
protocoles ? C'est un robot.
Celui qui ouvre la porte dans Alien, c'est un robot qui veut récupérer l'alien. Donc là, c'est drastiquement justifié. Là, dans Life, ils sont tous débiles. Hein.
Je suis obligé de trancher après tout ce petit énervement.
Voilà. Je savais qu'on allait s'engrainer avec ce film et là tout le monde est consterné autour de la table.
Non, mais Moi, j'aurais une position très CFDT, j'allais dire. Tu as raison sur un point, Juliette. Effectivement, il y a le fait que ce soit un film. Il faut se laisser porter par l'imaginaire et se dire que, effectivement, s'il n'y avait pas ce genre d'événement, il n'y aurait pas de dramaturgie. Voir des scientifiques le nez dans les microscopes. Alors, ça va dans une séquence de 5 minutes. Une séquence de 2 heures, bon, c'est un peu embêtant. Mais d'un autre côté, Omar a raison aussi de se dire que l'idée que la science, si effectivement les protocoles étaient respectés, on arriverait éventuellement à trouver ce qu'on veut chercher. Et donc se dire que des personnages sont formés, ont potentiellement des doctorats, ce genre de choses, ils se disent mince, pendant 10 ans, ils ont suivi des protocoles, et là maintenant, ça y est, vous partez sur Mars et ils se lâchent complètement. Et ça devient le bazar. Donc, je suis d'accord sur ce point-là. Alors, Alien, par contre, pour le coup, non. Alien, c'est que des ouvriers, en fait, c'est des métallos, quoi, dans le film. Le but, c'est ça, quoi, c'est de montrer des gens pas peu habitués, des gens du commun qui découvriraient des extraterrestres, pour le coup. Qu'est-ce qu'ils feraient? Ce serait le bazar, ils survivraient, quoi. Voilà.
Alors, évidemment, on va vous en parler parce que. Le padawan a dit vrai. Alors, Gérard et Philippe, il y a une question qui est derrière ça, évidemment, très, très scientifique. C'est que toutes les missions qu'on envoie sur Mars, les rovers notamment qu'on évoquait la semaine dernière, on fait très attention à ce qu'ils ne contaminent pas l'atmosphère martienne. Et ça, c'est un vrai sujet derrière Life qui nous permet de rebondir là-dessus.
C'est, comme je disais, ça serait le plus impressionnant, quoi. Je dirais que c'est que la vie qu'on découvre sur Mars, ça soit nous qui l'ayons apportée. Donc là, ça serait vraiment le truc débile, pour le coup. Le truc débile. Ce qui est vrai, c'est que, donc, du coup, toutes les sondes qui sont expédiées vers Mars et qui donc doivent atterrir, elles sont stérilisées. Et c'est un des gros boulots, justement, de vérifier qu'il n'y a absolument rien, pas de bactéries, pas de microbes qui se baladent dedans. Et en plus de ça, aujourd'hui, le choix qui a été fait par les États-Unis et même la Chine, c'est de ne pas déposer encore de rovers ou d'atterrisseurs dans certains sites que l'on sait être a priori encore peut-être plus favorable à étudier pour des traces de vie. Pour l'instant, ces sites-là ne sont pas. Donc on va dans des anciens lacs, là où il y avait de l'eau, et on regarde les roches et on vérifie. Donc on sait maintenant, effectivement, on sait qu'il y a eu beaucoup d'eau liquide avec un bon débit, puisque les roches qu'on trouve, elles correspondent à ce qu'on voit sur Terre dans ces conditions-là. Donc il y a de l'eau, donc là, maintenant on cherche les extraits. Mais effectivement, on essaie de protéger quelque part quand même la planète pour pas la contaminer, parce que ça serait bête, quoi.
Il y a déjà eu des cas de pollution comme ça, microbiennes très limitées sur Mars, qui sont apparues dans certaines sondes.
Sur la Lune, il y a eu lorsque, je crois que c'est Apollo 12 qui a atterri très près d'une sonde automatique américaine, et ils ont été démontés des éléments. On en avait parlé quand on a fait la vie.
Tout à fait.
Démonté des éléments qu'ils ont ramenés sur Terre, ils ont trouvé sur ces éléments-là des bactéries terriennes qui avaient survécu sur la sonde américaine et sur la Lune. Parce qu'on sait que voilà, la vie, elle est capable de résister dans des conditions extrêmes.
Ah oui, bah s'il y a des gens qui habitent à Limoges, hein, c'est qu'on peut résister, à tout. Je me fais un plaisir de me moquer de Limoges à chaque émission.
Le pire, c'est qu'ils restent.
J'ai fait la blague.
Ils
sont adaptés. Voilà.
Beaucoup de la vie s'adapte partout, y compris dans la Creuse. Et en tout cas, on continue à en parler. Là, on va parler avec le nouvel extrait d'un fantasme absolu, évidemment, quand on parle de Mars et du cinéma du n'importe quoi, d'un point de vue scientifique, ça va sans dire. On vous propose un extrait de Total Recall cette fois-ci.
D'abord, on va s'occuper de cet émetteur que t'as dans la tête. Sors ce truc de la valise et tu te l'enfonces dans le nez. Tu peux y aller, il est autoguidé. Pousse-le à fond dans la narine. Quand tu entends que ça craque, c'est que tu y es. Et maintenant, sors-le. Et fais attention, c'est ma tête aussi.
Ah. Alors cette scène est géniale en Total Recall, hein. Évidemment c'est devenu un film culte au-delà du remake assez fade, hein, qui avait été fait il y a quelques années. Total Recall, donc on le rappelle, raconte donc cette mission d'un ouvrier, pour le coup on en parlait tout à l'heure, qui lui décide de se faire implanter sur une planète Terre un peu triste des souvenirs qui font de lui un agent secret. Arnold Schwarzenegger commence déjà à se singer avec plaisir dans ce film-là, l'homme machine qui devient un homme de base puis un espion, en tout cas qui se rêve des souvenirs quasiment de cinéma. Un film qui est devenu culte de Paul Verhoeven puisqu'il parle à la fois du cinéma mais de tous nos fantasmes martiens, puisque cette mission l'envoie pour devenir agent secret sur Mars, une Mars qu'on essaye, en tout cas sur lesquelles il y a de la vie, dans des bases reclus, puisque Mars est la Mars que l'on connaît, hein, sur lesquelles il y a des bases dans lesquelles les terriens vivent, mais il faut quand même ventiler, ils sont quasiment sous terre un petit peu. Et puis il y a ce fantasme absolu de la scène de fin. Alors on va vous spoiler, mais bon, le film est sorti il y a plus de 30 ans, donc il fallait un petit peu vous documenter quand même. On le dit à chaque fois qu'on spoil. Cette scène de fin qui montre une terraformation de Mars qui est absolument dingue, évidemment, puisqu'on découvre donc à la fin du film qu'il y a des réserves de glace sous la surface, qu'elles fondent et que donc une atmosphère est recréée à la fin du film, jusqu'à cette scène qui a créé des disputes au sein de plein de groupes d'amis quand Schwarzenegger dit « mais est-ce que tout ça est réel ?» Et tout le monde se dit maintenant « est-ce qu'il est dans le rêve ou est-ce qu'il est dans la réalité à la fin de Total Recall ?» Moi je pense qu'il est dans le rêve. Et on le dit à la fin aussi d'Inception, mais le débat est beaucoup plus marqué avec Total Recall, évidemment, où j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de cette scène de fin. Mais au-delà de ça, la terraformation de Mars, évidemment, on avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière, c'est le fantasme absolu, hein, de vouloir tout terraformer en bon terrien un peu bourrin partout où on arrive. Est-ce que cela pourrait exister? Puisqu'on sait que Mars, vous nous l'avez dit tout à l'heure et la semaine d'avant, a perdu son atmosphère. Est-ce qu'on peut recréer une atmosphère? Ça paraît complètement dingue.
Pour recréer l'atmosphère, il faudrait qu'on arrive à faire évaporer une bonne partie de l'eau qui est sur Mars. Hein, cette évaporation, donc, monterait dans l'atmosphère et recréerait une petite atmosphère. Cette atmosphère, du coup, elle permettrait un réchauffement de la planète, puisque une partie de la chaleur resterait, et ainsi de suite, une espèce de cycle qui s'en... Sauf que... ça fait partie des grands fantasmes, mais... Alors, la quantité d'eau, on ne la connaît pas encore énormément. Et puis deux, on fait comment, quoi? Je veux dire,
Mais plutôt que d'envoyer des robots, est-ce qu'on ne peut pas envoyer James Dyson?
Ah, oui,
il fait des sèche-cheveux.
Oui.
Voilà, beaucoup d'évaporation.
Et puis, il y a un facteur temps, hein, parce que si vous faites ça, ça ne va pas se faire dans l'année. Hein.
Oui,
c'est sur des...
on sait bien qu'il ne faut pas être pressé dans ce genre de choses.
Voilà, c'est pas comme dans Total Recall où on voit l'atmosphère se créer en quelques minutes.
Oui, une petite vingtaine de minutes et puis c'est marrant.
Au-delà de la rigolade, ça prendrait combien de temps pour le coup?
Je sais pas, moi j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, c'est plusieurs siècles, hein, si ça se faisait, quoi, je veux dire. Non, c'est pas un truc qui se fait. Mais c'est fait, effectivement, il y a des gens qui ont travaillé sérieusement sur le sujet, notamment à la NASA.
Je crois qu'on peut apporter une précision, c'est pas le tout de reformer, de fabriquer cette atmosphère, mais faut-il encore qu'elle puisse rester?
Exactement, oui, c'était la deuxième question que j'allais vous poser, parce qu'on parlait du noyau, qui est un petit peu feignant sur Mars.
Il n'y a plus de champ magnétique.
Et c'est vrai que pas de champ magnétique, on recrée en gros une atmosphère dans un sac percé, quoi.
Pas de champ magnétique, ça veut dire pas de protection, et ça veut dire que le vent solaire arrive et chasse l'atmosphère. C'est ça le problème.
Donc Mars, c'est en gros une planète Terre un peu grippée, dans un sens. Et ça nous envoie vers un autre film culte, hein, qui existe sur Terre et qui évoquait à peu près le même problème, où le noyau de la Terre commence à être un peu feignant. Alors on n'est pas sur Mars, hein, mais c'est évidemment Fusion de corps, hein, où vous avez le noyau de la Terre qui décide de plus tourner. Qui boude et qui nous ramène visiblement à ce qui a connu Mars il y a des centaines de millions d'années, où le noyau donc est mort en fait.
Il se refroidit.
Il s'est refroidi et puis donc il entraîne donc cette absence de
magie. S'il n'y a plus de champ, voilà, s'il n'y a plus de noyau chaud, il y a plus de... c'est un peu comme un aimant, quoi, voilà. Donc l'aimant n'existe plus. Donc, parce qu'en fait, le champ magnétique il existe parce qu'il y a une friction en fait, hein, entre le noyau et le reste de la
Vrai dynamo. Mais voilà. C'est une très belle image. En tout cas, c'est vrai que c'est bien également de pouvoir le vulgariser de cette façon-là, parce que c'est vrai que évidemment, ça passe par des études très poussées, et c'est tout l'intérêt également pour nous de vous avoir autour de la table et de vous piquer un peu avec nos bêtises.
moi, une dynamo, j'en ai sur mon vélo.
Hein. Oui, c'est ça le principe. Voilà.
Un autre fantasme justement de cinéma. On va écouter un nouvel extrait. C'est vrai que Mars nous a beaucoup inspiré et a inspiré également beaucoup le cinéma.
Just woke up to a nightmare in his own backyard. But no one will listen.
No one will believe.
I told you, he needs psychiatric help.
And soon.
Alors on revient, puisqu'on là on est en anglais, c'est le dernier film qu'on va évoquer dans cette première partie. Je vais prévu qu'on parle de John Carter, qui est un film absolument dingue, où on voit un mec conquérir la planète à lui tout seul, et ça nous permettait de nous parler de la gravité sur Mars. Mais on l'avait évoqué, hein, la gravité sur Mars, c'est à peu près un tiers de la gravité terrestre. Donc ça nous permet de faire des sauts relativement importants. Et John Carter, lui, en tout cas, dans le film, il se lâche assez rapidement.
Il vole.
Ah, on peut en parler en quelques phrases, parce que c'est un extrait que j'avais prévu, mais comme on a fait un peu plus long que prévu, John Carter, c'était un premier échec industriel de Disney, qui commençait à faire à peu près n'importe quoi avec ses moyens démesurés quand ils ont racheté beaucoup
de... quand John Carter sort, on a tendance à dire que Disney a pris, ça n'a pas failli le couler, mais c'était la période avant le rachat de Marvel et de Star Wars. Donc du coup, ils étaient, ils ont pris, en gros, ils ont pris 200 millions de pertes à peu près, quoi. Le film,
ça fait mal, hein, 200 millions sur un petit PEL déjà, c'est pas très bien, mais là, 200 millions pour Disney, c'est tendu quand même.
Je pense qu'il y avait un trop gros risque dans ce film.
Bien sûr.
Qui était une adaptation de
Edgar Rice Burroughs,
voilà, qui a fait Tarzan et qui a fait John Carter. Voilà.
Et d'ailleurs, si on parle des hommes verts, c'est à cause de lui, parce que dans le premier roman, La Princesse de Mars, les Martiens sont verts. Ça vient de là.
Voilà. Non, mais
il a fait Tarzan aussi.
Voilà, hein, oui, tout à fait. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est la vision qu'on a. On cite Ray Bradbury souvent. En fait. C'est ce côté vraiment des débuts du 19e, 20e, de Camille Flammarion, on en parlait. Cet imaginaire martien qui a foisonné, qui est à la base et un des grands piliers de la pop culture moderne, évidemment. Hein, qu'aujourd'hui, on rigole, dont on se moque un peu. Mais c'est également. On parlera dans la deuxième partie peut-être un peu plus encore du paradoxe de Fermi. On avait envie qu'il y ait de la vie sur Mars, parce que la voir morte, c'est un petit peu terrifiant de se dire qu'elle était proche de la Terre, et si elle est morte, c'est que dans un sens, il y a quelque chose qui a du mal à se passer.
Est-ce que vous évoquiez la fin du 19e, début 20e, on en a parlé tout à l'heure, le fait que la Terre est une planète normale, et donc il y a d'autres planètes. Du coup, à l'époque, c'était normal de penser qu'il y ait des habitants sur toutes les planètes. Hein. Et on retrouve des traces avec du nombre d'habitants sur Mercure, sur Vénus, même sur le Soleil. Enfin, je veux dire, à l'époque, tout est habité. Hein. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, bon, on voit ça en 2023, c'est facile. Hein. Mais à l'époque...
Ça a baissé depuis sur le Soleil.
C'est la pluralité des mondes.
Ouais, c'est ça.
Exactement, c'est une très belle phrase, en tout cas. Alors, on va revenir avec nos interrogations en deuxième partie, hein, puisque c'est vrai que là, on foisonne et on dépasse déjà les chronos pour parler de Mars, parce qu'on est très heureux, en tout cas, de pouvoir évoquer cette grande planète au cinéma au mois de mars. Évidemment, la bande-son, on pense le mois sur Mars, c'est évidemment Bruno Mars. Il n'y a même pas de débat.
Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked.
Keep up.
Players only.
Come on, put your pinky rings up to the moon.
Woo.
Hey girls, what y'all trying to do?
What you trying to do?
24 karat magic in the air.
Je suis médecin, alors vous allez essayer de ralentir votre respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche.
Enchantée, Michael, je suis Marina Barnett. C'est moi qui commande le vaisseau MTS. Vous vous rappelez ce qui s'est passé sur le pas de tir?
Je suis ingénieur support au sol, commandant. Je suis resté évanoui longtemps?
Ça fait 12 heures qu'on a décollé.
Comment ça, 12 heures?
Je dois vraiment y aller, ma sœur m'attend. Ma sœur est toute seule à la maison, je dois absolument aller m'occuper d'elle.
Mais on ne peut pas faire demi-tour.
On peut pas faire demi-tour? Mais elle dure 2 ans, votre mission...
2 ans, ça va être très long, mais une occasion comme celle-là ne passe qu'une fois dans une carrière.
J'apprends très vite.
Prêt ?
Prêt.
C'est la première étape pour qu'un jour cette planète devienne notre deuxième maison.
C'est dommage, vous avez raté le filet mignon, mais ça c'est très bien aussi. On pense que c'est des spaghettis.
Je te préviens, Zoé est persuadée d'être la chef des blagues.
Nous parlons du passager numéro 4, bienvenue dans le hall du Pâté-Saran, on enregistre Mars au cinéma en très bonne compagnie, donc Gérard Chouteau et Philippe Grucker de l'Astrocentre Orléans, qui parlent avec nous de science et de cinéma, on est très content de le faire en votre compagnie, Juliette, et Stéphane et Thomas sont avec moi. Cette deuxième partie, on parle de la colonisation cette fois-ci de Mars, parce que dans la première partie, la planète rouge envahissait un peu la planète bleue, et on a parlé de quelques références importantes. De films plus dingues les uns que les autres, qui nous évoquaient notamment cette question microbienne de ne pas contaminer Mars dans les missions spatiales. Évidemment à tous les robots qu'on envoie sur place. Dans cette deuxième partie, on va parler des films de fiction qui sont toujours dans n'importe quoi scientifique, mais qui sont toujours armés de bonnes intentions, notamment coloniser les planètes voisines qui n'ont absolument rien demandé. Alors dans Passager numéro 4 de Joe Peña, qu'on avait pu voir sur Netflix, un petit budget, hein, 10 millions de dollars cette fois-ci, on décide de partir avec un médecin, une biologiste, pour préparer la planète à la colonisation par les humains. Juliette, on a vu ce film, on va en parler. Problème, le passager numéro 4 est quelqu'un qu'on retrouve à bord qui devait descendre du vaisseau spatial avant le décollage et qui va un petit peu, comme son nom l'indique, pourrir la mission. Un petit peu comme si quand vous partiez en vacances à la Bourboule et vous trouvez qu'il y a un pote dans le coffre. Vous dites, bah, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Sauf que bon, dans la voiture, la clim marche mieux quand il y a un passager de plus, que là, pour une fusée, ça pose évidemment des problèmes de réserve d'oxygène, des questions qui ont déjà été posées par des grands films de science-fiction, d'Alien à tous les autres évidemment. Cette fois-ci, par contre, ce qu'on va garder, c'est le fond du scénario, c'est que c'est un équipage qui part pour préparer à la colonisation martienne. Donc ça va nous amener sur des questions très scientifiques, hein, évidemment, qui sont évidemment très intéressantes, au-delà évidemment des rebondissements assez dingues des films. Acadabrantesque.
Oh là, c'est toujours pas bon.
Il y a trop de consonnes dans ce mot.
Abracadabra.
Évidemment, vraiment ce film est intéressant parce qu'on est directement dans l'envie d'aller coloniser Mars. Et évidemment, ça passe également par les parallèles qu'on fera avec ce qu'avait fait le National Geographic, hein, Mars, et la production donc, de Ron Howard, qui a envie, en tout cas, qu'on aille sur Mars. Juliette, par rapport à ça, parce qu'il y a ce côté évidemment fantasque, hein, du film.
Oui, alors par contre, moi, dans mon esprit, c'était déjà colonisé Mars. Pour moi, c'était un trajet d'un.
Oui.
Il y a un commandant de bord et deux étudiants qui doivent aller faire justement leur recherche. Donc, c'est presque un trajet de routine, quoi.
Oui, c'est ça, ils prennent le taxi.
Mais après, le sujet du film, au final, c'est pas du tout Mars, c'est la notion de sacrifice.
Quoi. Tout à fait. La notion de sacrifice quand on fait n'importe quoi.
Donc voilà, après, il y a des petites choses sur l'aspect scientifique qu'ils veulent implanter sur Mars avec les plantes, les algues, je crois, qui sont d'ailleurs pour but de terraformer.
Tout à fait.
Voilà, oui. mais à part ça, voilà, c'est juste la notion
c'est quelque chose qu'on trouve dans Sunshine
on
également.
On n'a plus assez d'oxygène, on est un de trop, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille.
Et de préférence celui qui s'est endormi, parce qu'en plus c'est ce qu'il dit, il s'est endormi dans le vaisseau.
Il y a un vrai débat.
Et il s'est endormi dans la fusée, donc il menace.
Non, il s'est pas endormi, il a été assommé. En fait, c'est un réparateur ou je sais pas quoi. Il se fait assommer et du coup il se retrouve dans le vaisseau. Et justement, c'est pour ça qu'il y a des dégâts dans le vaisseau.
Ce film est tellement
fou. En fait,
fou.
Tu vois, ton cerveau, tu le bloques complètement.
On va parler de Mars, évidemment, mais c'est quand même un film dans lequel vous avez quelqu'un qui est coincé dans une cale, on n'arrive pas à le repérer. Il y a une pièce qui coince, c'est celle qui produit l'oxygène dans le vaisseau, on n'a même pas de pièce de rechange. Il n'y a même pas une petite imprimante 3D, comme on disait en off, qui va vous réparer la pièce. Derrière, on trouve une solution, il faut aller à l'autre bout du vaisseau pour récupérer une batterie. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'il y a une pluie d'astéroïdes. Donc pour l'instant, ils n'ont pas de bol. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, c'est une mission qui est partie sur
éventuellement, ils n'avaient pas regardé la météo avant. C'est ça qu'on peut se dire, quoi. Normalement, quand tu fais un voyage, c'est ce que tu fais, quoi. Bon, les gars du Vendée Globe, tu vois, bon, ils sont au courant, quoi.
Ouais, en tout cas, on vous le conseille parce que c'est vraiment une mission de la loose. Hein. Passager numéro 4, ça pourrait presque évoquer, malheureusement, ce qui est arrivé, les péripéties qui sont arrivées à ExoMars, la mission européenne qui a souffert du Covid, puis de la guerre en Ukraine, qui devait envoyer donc le rover, le robot européen sur Mars. Ou les missions Apollo, bien sûr.
Tout à fait.
Tout à fait. Alors c'est vrai que là, c'était des péripéties importantes. Au-delà de ça, c'est une autre forme de terraformation, comme le disait Juliette. Cette fois-ci, on va terraformer, mais on passe par toujours recréer l'atmosphère. Et on le voit en parlant avec vous, on voit que le cinéma de fiction, dans un sens, les films européens comme le cinéma hollywoodien la plupart du temps, ils oublient quand même cette question centrale, c'est que dans la terraformation, il y a cet aspect du noyau, dans un sens, qui est fondamental, puisque là, on cherche toujours à terraformer en rapportant de l'air dans un panier percé, quoi. On est toujours sur cette base-là.
Oui, mais l'idée du film, c'est d'arriver à refaire de l'atmosphère pour pouvoir recréer la vie sur la planète Mars et pouvoir y vivre. Donc, en fait, ils vont omettre ce qui les arrange pas. C'est normal. Mais effectivement, dans la vraie vie, ils font un champ magnétique pour garder l'atmosphère quand même. Sinon, on va retrouver le problème qui s'est déjà posé.
Alors, ce qui nous amène à une autre question, c'est qu'on a un cinéma de fiction qui a des moyens démesurés en termes d'imagination, parfois en termes de budget. Quelle énergie il faudrait, en fait, d'un point de vue scénaristique, pour relancer, réchauffer ce noyau, puisque c'est lui qui, dans un sens, serait la première étape. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est un peu une question piège, mais j'imagine que ce serait une explosion complètement. C'est même pas possible d'un point de vue technique.
Même pas.
Voilà.
Je pense que c'est pas. On en parle pas.
C'est pas concevable.
Enfin bon, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de technologie qui serait. Mais une fois de plus, hein, le fait de recréer l'atmosphère, elle est. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait créer au fur et à mesure de l'atmosphère qui serait elle-même détruite par le vent solaire. Donc il y a une espèce de. Comme la baignoire qui fuit, qu'on remplit d'un autre côté.
Quoi. Moi, ça, je vais vous passer la solution qu'on a dans Fusion The Core. Ce film est génial. C'est que le noyau de la Terre s'arrête. On décide de creuser jusqu'au noyau et balancer des bombes nucléaires.
Une espèce d'engin qui va au centre avec une bombe nucléaire et qui relance le tout.
Alors, ils en balancent trois, très exactement. Ouais. Donc,
j'ai vu.
Non, mais c'est bien, ça remet le nucléaire au centre des choses. Quoi. On l'avait un petit peu oublié. Bah, voilà, on balance une petite bombe toutes les 50 ans et ça passe. Quoi.
Moi, je pense qu'il faut faire une étude de marché.
Il y a beaucoup de sondes qui fonctionnent avec le nucléaire. Hein. D'ailleurs, quand vous envoyez des sondes très loin, vous êtes obligé de mettre du nucléaire parce que les panneaux solaires, quand vous êtes à quelques milliards de kilomètres, ça ne marche plus. Hein.
Alors on vous embête évidemment, on est très persifleurs avec notre colonisation de la planète Mars, mais c'est le cinéma qui nous force et nous on va vous proposer donc du coup avec ce nouvel extrait cette fois-ci une colonisation qui est relativement intéressante parce qu'elle correspond au cinéma parano des années 70. C'est un très grand film hein, qu'on va vous le présenter ici, Capricorn One de Peter Iams. Je vais réviser mon accent anglais pendant qu'on écoute l'extrait.
In just a few minutes we should be receiving a signal from the spacecraft.
It's important to know that it takes 21 minutes for the signal from Mars to reach Earth. We have no way of communicating with Capricorn 1, and what we will see actually happened 21 minutes ago. This is Capricorn Control.
We're getting something now. We are changing to a secondary frequency.
Houston, this is Capricorn 1. CMLM separation was nominal. I have CM visual contact through the port window. Delta V burn time, 3.3 seconds.
3.3 seconds burn is correct. We should be hearing from the CM soon.
Un extrait de Capricorn 1, le film de Peter Iams. Ici, on est dans le cinéma des années 70, qui a été marqué évidemment par les reflux de l'affaire du Watergate aux États-Unis. On imaginait des ennemis partout, puisque même le président pouvait espionner ses concurrents. On ne croyait plus dans les institutions. Il y avait cette vague terrible qui avait déjà été créée après l'assassinat du JFK aux États-Unis. Pourquoi ce petit parcours historique ? Parce que l'ensemble des films des années 70 au cinéma ont été aux États-Unis marqués par cette théorie du complot. Et Capricorn 1 nous raconte justement le fantasme ultime qui était ressorti avec un film qu'on avait évoqué en votre compagnie pour La Lune au cinéma, qui était destiné Opération Lune de William Carell, où on imaginait que l'atterrissage sur la Lune avait été réalisé par Sidney Kubrick en studio. Capricorn 1 nous fait la même chose, mais cette fois-ci avec un amarrassage, un atterrissage, ça n'existe pas. Non mais c'est vrai, moi je dis atterrissage, mais ça serait un alunissage, donc un amarrassage. C'est un amarrassage, je crée ce mot officiellement, c'est un néologisme que je crée maintenant. Alors, Capricorn 1, est-ce que vous l'avez vu? Et justement le fait qu'on imagine déjà dans les années 70 que Mars, on pouvait y aller, cette naïveté des années 70 où on imaginait, parce qu'il y a quand même des scientifiques, et également les responsables du programme spatial américain, donc d'Apollo, imaginait de manière très scientifique que dans la décennie suivante, on pourrait aller sur Mars. Hein. Il le disait de manière très cartésienne.
On l'avait évoqué quand on avait parlé de la Lune, quand les Américains ont marché sur la Lune, et c'est donc en 69. Herbert von Braun, qui était donc le patron à l'époque de ces missions-là, avait proposé donc à la NASA de passer à autre chose, puisque la Lune s'était fait. Et donc lui, il avait proposé de passer sur Mars. Toute une série de fusées qui se relayait en envoyant de l'automatique sur Mars avant les hommes, et ainsi de suite. Tout ce truc-là avait déjà été imaginé. Il n'y a plus de budget, donc ils ont
abandonné. Il n'y a plus de budget, mais concrètement, avec ces moyens de l'époque, vous avez pu vous pencher dessus. Est-ce que c'était scientifiquement gérable déjà à cette époque, avec les moyens de bord?
Von Braun, il disait, moi j'ai une fusée tellement puissante que je peux... Alors, le problème, c'est qu'elle était effectivement très grosse, mais elle n'envoyait que quelques tonnes. Hein, voilà. Donc il aurait fallu envoyer... Lui, son projet, c'était plusieurs centaines de fusées, hein, ou plusieurs dizaines au moins, du coup. C'était ça l'idée. Hein. Il n'y a pas eu d'expérience, donc on ne sait pas ce que ça aurait donné. Hein. Enfin, on est quand même dans une technologie des années 70. Hein.
Oui, c'est vrai que donc, sans fusées les unes après les autres, qui se relaient pour...
Comme ils ne pouvaient pas envoyer beaucoup de tonnage, il fallait en envoyer beaucoup pour avoir suffisamment de quoi vivre sur Mars. Quoi.
C'est incroyable, c'est cette mentalité vraiment très terrienne des 70, où on a de l'énergie à foison, on n'a pas encore, nous, les questions de réchauffement climatique qui s'est popularisée, puisqu'on en parlait déjà dans les années 70, mais ce n'était pas au cœur des débats comme aujourd'hui. Et puis cet infini des ressources.
Mais c'est vrai que c'est pas bête, hein, parce que avec le prix du pétrole à l'époque, c'était à l'époque qu'il fallait le faire. Là maintenant, effectivement, c'est un peu embêtant. Mais y a, même dans la terraformation, il y a quand même cette idée d'exploitation de l'espace.
Ouais, je pense
est-ce que, en tant que scientifique, ça vous heurte pas en vous disant, mais nous, ce qu'on veut, c'est de comprendre ce qui se passe là-bas, pas forcément mettre le pied dessus, pas forcément.
C'est pas ce que les scientifiques veulent. La terraformation, ce sont des exercices, on va dire, intellectuels qui sont menés. Mais les scientifiques, c'est pas ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement, pour l'instant, on voit bien, on envoie des sondes automatiques, c'est ce qui coûte le moins cher, et on essaye de voir s'il y a eu quelque chose qui a démarré. C'est ça la vraie recherche. Hein. La terraformation, c'est...
C'est un fantasme d'écrivain et de...
Oui, puis si on n'a pas vraiment d'intérêt. On dit toujours, Mars n'est pas le plan B. C'est pas le plan B de la Terre. Voilà. Donc il faut protéger notre planète. Et c'est pas. Voilà, on peut se dire, on continue de la pourrir et on ira ailleurs après.
Le plan B, il est plutôt passé dans un trou noir et aller voir, beaucoup plus loin.
Et pourquoi pas?
Il n'y a pas que Mars, on a déjà évoqué, mais enfin, la vie, aujourd'hui, il y a des réflexions. Il y a une prochaine mission qui s'appelle JUICE qui va aller sur Jupiter et qui visitera Europe. Europe est un des satellites de Jupiter et il y a de la glace et de l'eau. Donc on voit que la démarche est toujours la même. S'il y a de l'eau liquide, peut-être
qu'il se passe quelque chose. Ouais.
Voilà.
En tout cas, c'est passionnant, évidemment, d'en parler avec vous, puisque là, dans cette deuxième émission, on était dans le cinéma du n'importe quoi d'un point de vue scientifique, ça va de soi. Et c'est pour ça qu'on a parlé de très grands films, évidemment de films plus légers, plus pop. Vous faites votre avis par vous-même, même ceux dont on s'est moqué, comme Life, Origine Inconnue, que vous pouvez trouver sur Netflix, hein, il vient d'arriver sur le catalogue. également pour Passager numéro 4. On avait Approaching the Unknown également qu'on avait mis dans la filmographie.
Alors, Capricorn One, il est quand même pas dans le même registre.
Non, pas du tout.
C'est
pour,
même
ça, que
registre
je, que c'est pour ça que je me permettais cette réserve-là. C'est que Capricorn One est assez peu diffusé, de temps en temps rediffusé sur Arte. Ouais. Mais c'est un vrai film
c'est
parano.
C'est pas un film de science-fiction en tant que tel.
Et non, parce que là, tout est sur Terre. On a des astronautes qui doivent reconstituer un atterrissage martien. et c'est vraiment tous les fantasmes, en tout cas de ces années 70, d'imaginer que la conquête spatiale, à un moment donné, va tellement loin qu'on est obligé de mentir directement sur elle pour arriver à la représenter de cette façon-là. Il y a toujours l'idée de rêve qui est très présente derrière et qui est au cœur de cette exploration spatiale que beaucoup de scientifiques appellent de mille feux pour retourner en tout cas sur Mars, déjà avec des rovers. Et on arrive justement à cette 50e minute de l'émission qui est assez stratégique, Juliette, parce que tu nous as concocté des quiz sur Mars et on va être très content d'y participer avec toi et avec nos invités.
Alors du coup, comme c'était le grand n'importe quoi, je vous ai préparé un quiz bar chocolaté au cinéma. Parce qu'un Mars, ça repart.
Ok, d'accord, on n'était pas prêts.
Willy Wonka, vous allez bientôt le rencontrer. Willy Wonka,
donc, alors vous êtes prêts ?
Allez, on est prêts.
Allez, on commence. Donc le premier, on va commencer par du très facile. Je vous pitch un film et vous le retrouvez. C'est un gars, comme il trouve pas de Mars pour repartir, il plante des patates avec son caca,
seul
puis finalement
Mars.
Il repart.
Seul sur Mars,
bien évidemment.
On en parle la semaine prochaine.
Oui. Attention. J'ai encore attention, il faut que j'arrête. Il y a des gars sur un bateau, ils ne sont pas contents à cause que le bateau a un nom à la noix de coco, du coup ils se mutinent.
Alien. Ah non, le Bounty.
Le Bounty, bah oui, évidemment. Bar chocolaté.
J'étais dans l'espace, moi. J'étais dans l'espace.
Non, reste sur les barres chocolatées. Alors elles ne sont pas forcément dans le titre.
Ok, pardon.
Je vous étonne toujours. Hein.
On s'est engagé à le garder au montage en plus, hein. C'est terrible. Vous restez pour la semaine prochaine.
Non, tu peux mettre dans le bonus. C'est un gars qui veut, à un moment, user ses baskets. Du coup, pour une nouvelle paire de sneakers, il court à travers tout le pays.
Forrest Gump.
Oui, et après il fait autre chose comme manger du chocolat.
Ouais. Je suis bien là, je suis à 3 points, je crois.
Ouais.
C'est très drôle ça, en effet. Ce qu'on rappelle pour nos auditeurs, c'est que sneakers, c'est le nom des baskets aux États-Unis.
Voilà, c'est
ça. Parce que quand on va aux États-Unis, qu'on dit qu'on veut we want some baskets, les gens nous mettent des coups de pied en général. Ils le prennent assez mal. Hein, donc...
directement.
Ouais. Panier. Alors attention, j'espère que celui-là vous allez le trouver parce que c'est Tommy Lee Jones qui écoute YouTube et qui lance des barres Ovomaltine partout parce que c'est de la dynamique. Excusez-moi, mais Jeff Bridges, il n'est pas d'accord de n'avoir que 8 secondes pour l'empêcher de les manger.
C'est pas
Cowboy dans ce
Arlington Road, non ?
Non. Oui, c'est un film typique des années 90.
Celui où il est des mineurs.
Jeff Bridges, c'est
Jeff Bridges,
mineur,
il est des mineurs, oui. Ah. Non, je l'ai pas. Backdraft.
C'est ça, exactement.
Oui, pas facile, tu vois. Il vaut 2 points celui-là.
Ouais. Mais il l'aura plus.
Il l'aura plus. Hein.
C'était Blown Away.
Blown Away, bien sûr. Ok, d'accord.
C'est avec une histoire aussi de l'IRA. Ils étaient membres de l'IRA et voilà, il y en a un qui va en prison et l'autre qui se reconvertit.
C'est pas de bol.
Alors, attention, nouvelle question. C'est un gars, il est coincé. On lui a dit avec Raider 2 doigts coupe fin, mais il avait que des Twix. Du coup, il se coupe toute la main pour sortir et aller bouffer.
27 secondes, ça ?
Non.
Ah, c'est.
27 jours.
C'est
27
non,
jours.
C'est
27
heures, là, comment ça s'appelle ? Le gars qui est coincé.
Eh bien, 27 heures.
Qui se coupe la main.
27 minutes ? 24
plus
secondes.
Que ça,
non, 37. 37 heures.
T'as dit combien, toi ?
37 heures.
Non, plus 20 que
47.
Ça. 147. Non.
Un peu moins.
On dirait qu'on joue.
Juste pris.
C'est plus
c'est ça,
c'est moins.
C'est ça.
Lalalala. 127 heures.
127, oui, j'ai dit 27. Heures. J'ai dit 27. Je suis à...
Non, il y en manque 100.
J'ai les dizaines, j'ai les unités. Il ne faut quand même pas déconner. Moi.
Alors attention, on continue. C'est un gars, il fait du jambon au vegan. Et comme il trouve ça, comme un Kinder Bueno, si bon qu'on en deviendrait méchant, il pense à en refaire.
Barbac ?
Barbac ?
Oui, c'est bien.
J'ai dit avant ? Non. Bon, je te le donne parce que t'as pas beaucoup de points. Mais...
Alors on continue l'avant-dernière question. C'est un gars, il a un break mais il a pas de KitKat. Du coup, il troque sa voiture pour un camping-car, un hélico, un bateau, des avions, un vélo pour finalement choper la grippe et sauver l'humanité.
Je suis une légende ?
Non. Il ne chope pas la grippe, non, je suis une
légende. Non, mais tout le monde.
Bien carabiné. Hein, dans le...
C'est une grosse grippe. Donc quelqu'un qui chope la grippe avec plein de voitures, c'est ça ?
Non, il a un break au début, mais il n'a pas de Kit Kat. Donc il essaye plein de véhicules
2012,
différents.
Non ?
Non. C'est avec un blondinet.
Un blondinet ? C'est qui est blond déjà ? Christophe Lambert ?
Brad Pitt ?
Oui.
Ah, bah c'est World War Z alors.
Oui, c'est World War Z.
Très bon film.
Je prends le point d'ailleurs.
Bah oui, bien aidé. Hein, bien aidé.
Oui, mais ça.
Allez, la dernière pour la route. C'est un gars. C'est des gars. Un gars, il rencontre d'autres gars avec des oreilles pointues qui leur filent des balistos parce que ça cale bien pour la route sous un gros œil.
Le Seigneur des Anneaux.
Oui,
ça c'est bien ça. Et ça vaut deux points, mais t'es quand même derrière moi. Les oreilles pointues. Cette forme d'agressivité envers les elfes.
Bah, ils ont des oreilles pointues.
C'est vrai, ouais, ils ont des oreilles pointues et des pieds pointus pour les hobbits.
Et ça te pose pas un problème
scientifique ?
Non, de film et tout ça.
J'ai pas de problème avec ça parce que les personnages ont des comportements à peu près. Comment dire ? Ils sont à peu près tous cohérents, les comportements.
D'accord.
Mais moi, c'est ça qui m'est marqué dans Life. Voilà. On a un extraterrestre qui est en train de manger un de mes potes. Donc moi, la réaction normale, ça serait de me barrer en disant bah, écoute, débrouille-toi, hein, c'est de ta faute. Hein. T'as mis un coup de taser à un martien, il est en train de te manger. Bah, écoute, on t'avait prévenu de pas le faire. Hein. On ne tasse pas les martiens. Et là, on a un chef de mission qui décide de dire ah bon, non, on va ouvrir la porte pour l'aider. Il a un petit peu mal à la main. Bah non, bah, non, on fait pas ça. Bah, je suis désolé, en tant que spectateur, ça me dérange. Voilà. En tout cas, c'était une nouvelle façon pour moi de troller Life Origine Inconnue, qui est un de mes grands plaisirs de pop culture. Et on l'a fait en très bonne compagnie pour parler de Mars, les cinémas du n'importe quoi. Merci beaucoup Gérard Joutot et Philippe Grucker, donc de l'Astrocentre Orléans. On va continuer à vous embêter la semaine prochaine pour cette fois-ci parler de cinémas qui vont plus vous parler encore, puisque ce sera les cinémas les plus scientifiques pour finir donc cette série d'émissions en votre compagnie. Et notre série d'émissions, notre thématique du mois de mars, la planète Mars au cinéma. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Thomas, et merci beaucoup nos invités Stéphane pour cette nouvelle émission.
Bisous.
Un gros bisou. Et bonsoir. On se quitte cette semaine bonsoir. Avec Georges Moustaki, les eaux de Mars, figurez-vous. Et à la semaine prochaine.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois. C'est un jour le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, par épais, et on fin do camino, et on reste di toc, et un poco sozinho. Par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine.